15h à Paris, 14h en temps universel. Vous écoutez RFI. Bonjour Charlotte Tidrac, c'est l'heure du journal.
Bonjour, à demain, Pascal Paradou. À la une, la charge de Donald Trump contre l'USA, l'agence américaine d'aide publique au développement, dirigée, selon lui, par des fous extrémistes. Cette institution, dans le viseur aussi du patron de X, Elon Musk, qui envisage ni plus ni moins de la fermer. À suivre aussi, reportage dans le sud de la Syrie, à Souaïda, fief de la minorité druze. Les deux principales factions armées refusent de déposer les armes sans garantie des nouvelles autorités. En France, 2 ans de prison ferme pour le réalisateur Christophe Ruggia, reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement l'actrice Adèle Haenel quand elle avait entre 12 et 14 ans. Il va faire appel. Et puis Martin Fourcade jette l'éponge. Le multiple champion olympique de biathlon renonce à la présidence du comité d'organisation des JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. Pour Donald Trump, elle est dirigée par des fous extrémistes. Pour son allié, Elon Musk, c'est une organisation criminelle. On ne parle pas là d'une mafia ou d'une secte, mais bien de l'USA, l'agence américaine pour le développement, cible d'une violente charge. Elon Musk, d'ailleurs chargé d'une mission pour tailler dans le budget de l'État, ne le cache pas. Des travaux sont en cours pour fermer cette agence, une institution pourtant créée il y a 60 ans par John Fitzgerald Kennedy. Alors Nicolas Feldman, de quoi parle-t-on ici ?
Eh bien, tout simplement du plus grand donateur au monde, plus de 40 milliards de dollars distribués chaque année dans près de 170 pays. USAID finance des programmes de lutte contre le VIH en Afrique, elle soutient l'agriculture durable en Asie, elle aide à la reconstruction après les catastrophes naturelles comme après le séisme de 2010 en Haïti. En 2023, la RDC était parmi ses premiers bénéficiaires. Kinshasa a reçu près de 950 millions de dollars d'aide, utilisés par exemple pour mener des programmes de lutte contre le paludisme.
Mais alors pourquoi cette agence est-elle dans le viseur de l'administration Trump ?
USAID est accusé de gaspiller l'argent des Américains. Depuis la semaine dernière, une grande partie des financements de l'agence ont été mis en pause. L'administration Trump se laisse 3 mois pour étudier ses programmes d'aide et voir s'ils sont conformes ou non avec la politique étrangère des États-Unis. Un gel de l'aide qui a déjà des conséquences très concrètes, puisque de l'Ukraine au Mali, des dizaines d'ONG ont vu leurs fonds gelés quand d'autres programmes sont, eux, toujours dans l'incertitude.
Nicolas Feldman, Donald Trump qui doit échanger au téléphone aujourd'hui avec les dirigeants du Mexique et du Canada, et cela après son annonce d'augmenter les droits de douane de 25% à ses partenaires et de 10% pour la Chine. Le président américain a prévenu l'Union européenne pourrait être la prochaine sur la liste, et cette menace est au menu de la réunion informelle entre les dirigeants des 27 aujourd'hui à Bruxelles, un sommet à l'origine essentiellement consacré aux moyens de renforcer la défense européenne, notamment face à la Russie de Vladimir Poutine. La Russie, où un séparatiste ukrainien a été tué ce matin après une explosion dans un complexe résidentiel de luxe à Moscou. C'est ce qu'indiquent des agences de presse russes. Il s'agit d'Armen Sarkissian. Il avait fondé un bataillon combattant contre l'armée de Kiev. Pas de revendication à ce stade en Syrie, après un attentat meurtrier à Manbij, dans le nord, où s'affrontent des forces kurdes et des factions pro-turques. L'explosion d'une voiture piégée a fait 15 morts, 15 civils. Le nouveau gouvernement syrien avait pourtant annoncé la semaine dernière la dissolution de toutes les factions armées. Mais dans le sud de la Syrie, cette fois à Souaïda, fief de la minorité chiite druze, les deux principaux groupes armés refusent de déposer les armes tant qu'ils n'ont pas obtenu des gages, notamment la rédaction d'une nouvelle constitution. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Face à la nouvelle, Nagdam a serré les dents. Depuis qu'Ahmed Al-Shara a demandé aux factions armées de Souaïda de déposer les armes, elle craint pour sa sécurité, doute que le nouveau gouvernement soit en mesure de protéger les minorités.
C'est trop tôt pour juger, cela fait seulement 2 mois qu'ils sont au pouvoir. Peut-être qu'ils arriveront à créer un gouvernement avec des lois justes, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas clair. Leur vision islamiste est terrifiante et l'origine de leurs combattants aussi.
Souaïda a longtemps vécu préservée de la guerre, jouit d'une autonomie autonomie particulière. Le régime de Bachar al-Assad s'y était peu à peu désinvesti, laissant la place aux multiples factions armées. Elle refuse aujourd'hui de déposer les armes, comme Abou Ali, combattant de la faction Al-Jabal.
C'est une question de temps, le temps que le pays se reconstruise, que la confiance entre les gens revienne. Personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas confiance pour me rendre à Damas sans rencontrer de problème.
Depuis la chute du régime, ces combattants empêchent toute entrée du nouveau gouvernement intérimaire, Shakib Azam, chef de la brigade Al-Jabal.
Pour le moment, il n'y a que des hommes d'Ayad Tahrir al-Sham. C'est une mauvaise décision. En tant que Syriens, nous avons tous le droit de participer à ce triomphe et à la gestion du pays.
En janvier, l'une des hautes autorités religieuses de la communauté druze a déclaré qu'il n'accepterait pas que les groupes armés déposent les armes avant qu'une constitution n'ait été rédigée. Manon Chaplin à Damas, RFI.
J'ajoute que le nouveau président syrien par intérim est attendu pour une visite demain en Turquie, annonce d'Ankara. En France, rendez-vous dans un petit peu moins d'une heure maintenant à 16h heure de Paris pour les députés qui doivent commencer l'examen du budget 2025. Et le Premier ministre François Bayrou prêt à dégainer pour la première fois l'article 49.3 pour faire adopter le texte, autrement dit à engager la responsabilité de son gouvernement. Le bureau national du PS, le Parti Socialiste, vient de se prononcer contre une motion de censure, selon les participants. Et en France toujours, l'affaire avait ouvert la voix au mouvement MeToo français, les accusations d'agression sexuelle portées par l'actrice Adèle Haenel envers le réalisateur Christophe Ruggia. Les faits remontent au début des années 2000. Et bien près de 25 ans plus tard, le cinéaste a été condamné là à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique. Et Marie Cazadebé, la défense de Christophe Ruggia, a tout de suite annoncé qu'il allait faire appel.
Oui, durant son procès, Christophe Ruggia s'est défendu d'avoir eu de l'attirance pour Adèle Haenel, qui avait entre 12 et 14 ans au moment des faits. Il voyait dans ses accusations une vengeance pour ne pas lui avoir confié de nouveaux rôles après le film Les Diables. Mais pour le président du tribunal correctionnel, le cinéaste a clairement profité de son ascendance sur la jeune fille, une conséquence de la relation instaurée sur le tournage. Un tournage en 2001 au cours duquel le comportement déplacé du réalisateur, presque quadragénaire à l'époque, avait créé le malaise. Les agressions sexuelles avaient commencé après, au domicile du cinéaste, chez qui Adèle Haenel se rendait pour soi-disant préparer la promotion du film. Elles se multiplieront pendant plus de 2 ans. C'est dans les colonnes du journal Mediapart que l'actrice accuse pour la première fois son agresseur en 2019. Le parquet s'auto-saisit de l'affaire. Quelques semaines plus tard, après son audition, Adèle Haenel décide finalement de porter plainte et elle ouvre ainsi la voie à de nombreuses autres comédiennes victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Mais Adèle Haenel choisit, elle, de mettre fin à sa carrière en 2023, dénonçant la complaisance généralisée du métier pour les agresseurs.
Marie Cazadebé, cap sur les Jeux Olympiques d'hiver 2030, une édition organisée par la France dans les Alpes et qui a connu ce matin son premier couac, puisque Martin Fourcade, qui était pressenti, ne veut plus être le président du comité d'organisation, Olivier Prong.
Un renoncement, Charlotte, qui fait l'effet d'une bombe. Le multiple champion olympique de biathlon ne souhaite plus devenir l'homme fort de ces Jeux de 2030 pour, je cite, « ne pas sacrifier ses convictions ». Martin Fourcade évoque des désaccords trop nombreux comme la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial, et il explique dans un courrier adressé aux partis concernés, autrement dit aux pères fondateurs de ce projet des Jeux d'hiver 2030, qu'il a donc pris la difficile décision de se retirer alors que la création du comité d'organisation patine depuis l'automne dernier. Elle était d'ailleurs fixée à ce début de semaine, mais avait déjà été repoussée il y a quelques jours au 18 février. Mon ambition pour ces Jeux est claire, ils doivent être en phase avec leur époque, pleinement conscients des enjeux écologiques et ancrés dans la réalité économique de notre pays, pour ne pas dire de nos montagnes, explique enfin Martin Fourcade, connu pour être extrêmement soucieux des questions d'environnement et être assez aussi solitaire dans sa manière de faire. Cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de ce dossier, je le regrette, conclut-il. Ce retrait est l'épilogue de mois de tensions entre notamment Martin Fourcade, qui avait l'aval du mouvement sportif et de l'Élysée, et puis l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Un retrait qui laisse le champ libre a priori à un autre biathlète, Vincent Jay, moins charismatique que Fourcade, mais très impliqué aussi depuis le début de ce dossier des Jeux d'hiver 2030.
Et la ministre des Sports a réagi hein, tout de suite. Marie Barsac estime que Martin Fourcade aurait fait un excellent président de ce comité olympique, mais elle a pris acte de cette décision. Toute l'actu sportive du foot tout à l'heure, Radio Foot International avec Hugo Moissonnier, ce sera 17h10, heure de Paris, mais tout de suite, on vous retrouve, Caroline Lachowski, pour Autour de la question. Bonne émission.